La chasse au lion. Chapitre 10. Il n'était que temps. Vous voyez notre situation. Pas bonne, n'est-ce pas? La lionne sous nos pieds, mais rageuse comme tout, et d'ailleurs ayant enfin retiré sa tête de l'épervier, en y faisant un large trou avec les dents. De ce trou, elle allongeait le cou pour saisir tantôt mes mollets, tantôt ceux de Pitou, qui se défendait comme moi à coups de crosse, ne pouvant pas lui présenter la baïonnette, parce qu'avant tout, il fallait s'appuyer fortement et se tenir debout. Si l'un de nous deux était tombé, elle aurait été libre et l'aurait étranglée dans le temps que le sergent Bridou met à siffler un petit verre de torboyau. D'un autre côté, en face de nous, à 300 pas, le beau-père de la lionne, sa belle-mère, ses beaux-frères, ses tantes, ses cousins, ses cousines, que sais-je encore, je ne voulais pas leur demander leurs actes de naissance. S'ils avaient le temps de nous rejoindre, notre affaire était faite, je vous en réponds. 2 fusils déchargés, contre 5 lions et 1 lionne en fureur, ce n'était pas de quoi faire avec plaisir l'escrime à la baïonnette, où pourtant je ne suis pas manchot, je m'en vante. Mais vous savez, ces vilaines bêtes ont une escrime à elles qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait comment parer. Elles sautent en l'air comme des chats, et 5 fois plus haut. Elles vous tombent sur la tête, sur les épaules, elles vous enlèvent d'un coup de dent 1 livre ou 2 de chair fraîche. C'est tout à fait insensé. Par bonheur, quoique les lions ne fussent qu'à 300 pas de nous, en ligne droite et à vol d'oiseau, ils étaient forcés de faire un détour 1/2 lieue pour nous rejoindre, et voici pourquoi. La vallée, comme je vous l'ai dit, était profonde. Mieux que profonde, on aurait cru voir un corridor entre 2 murs de rochers de 500 pieds de haut. Pour passer d'un côté, ou si vous voulez, d'un mur à l'autre de la vallée, il fallait remonter beaucoup plus haut. Pendant ce temps, nous avions le moyen de réfléchir, Pitou et moi. Je lui dis, « Tu entends les lions ?»«
Oui. »«
Veux-tu les attendre ?»«
Ça dépend. » »«
Si nous les attendons, ils seront là dans 5 minutes. »«
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?»
répliqua Pitou. « Le vin est tiré et il faut le boire. »
Il appelait ça du vin, le bon enfant.
Moi, que ce fût du vin ou du vinaigre, j'en avais assez, avant même d'en avoir goûté. D'autant mieux que je voyais le vieux lion, le plus gros de tous, le chef de la tribu, prendre son parti, faire signe aux autres de le suivre et partir en avant au grand trot, comme un colonel en tête de sa troupe. Et quels pas il faisait, des pas de 6 pieds au moins. Cette fois, nous étions perdus. Je pensais en moi-même, « Mon ami, tu ne reverras jamais papa du Manet. Ah, s'il savait que dans 10 minutes nous allons avoir 5 lions sur le dos et 1 lionne dans les jambes, qu'est-ce qu'il dirait, Seigneur Dieu de la terre et des étoiles? 1 000 millions de tonnerres et d'éclairs. Il faut sortir de là et retourner à Dardenac pour embrasser le vieux. » Voilà comment je réflexionnais en dedans. Pitou, lui, ne réflexionnait pas. Du moins, il ne m'en a jamais rien dit. Mais quand la lionne essayait de mordre ses mollets ou les miens, il lui donnait sur la tête un tel coup de crosse qu'il l'aurait brisée en 1000 morceaux si elle avait été faite de porcelaine ou de faïence. Malheureusement, le crâne était plus dur que du fer. Ça, comme disent les savants, c'est une propriété du climat d'Afrique, et ça fait qu'on ne trouve presque partout dans ce pays-là que des nègres, des arbis et des juifs mercantis, qui ne sont pas les fleurs de la nature. Tout à coup, faites bien attention. Du fond de la vallée, en bas, tout en bas, voilà que j'entends tr, 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 le son du clairon qui s'approche. Ah! Je fais signe à Pitou en étendant le bras gauche de ce côté-là et je lui dis « Nous sommes sauvés, voilà les camarades !»« Quels camarades ?»«
Et parbleu, ceux de la 3e, du 4e, du 8e, de fer et bronze !»« Et tiens, je reconnais le coup de langue du clairon pain d'avoine !»
Ça,
C'est vrai, reprit Pitou. Il a un fameux coup de langue, ce pain d'avoine. Mais voilà, arrivera-t-il assez tôt? Nous saurons ça dans un quart d'heure, si nous sommes encore en vie, et si tous ces gredins à quatre pattes n'arrivent pas avant lui.
Ce qu'il y avait de pire dans notre affaire, c'est que nous voyions bien les lions faire au grand trot un détour pour nous rejoindre, mais nous ne voyions pas les camarades qui venaient du fond de la vallée par le chemin opposé. Et surtout, nous avions peur de n'en être pas vus. Aller à eux, pas possible. La lionne, une fois lâchée, nous aurait sauté dans le dos.
Heureusement, pendant qu'elle rugissait de colère, de fureur, et aussi parce qu'elle n'était pas à son aise, la pauvre bête, voilà Pain d'avoine qui souffle de plus en plus fort, comme pour aller au pas de course, et les camarades qui le suivent en criant « Pitou ! Pitou ! Du manet ! Du manet !»
Ma foi, il n'était que temps, car la lionne, à force de se démener, allait nous jeter par terre, et toute sa famille se précipitait pour l'aider à nous ramasser. À la fin, je veux dire au bout de 3 minutes qui nous parurent plus longues que des heures, Pitou, qui se penchait en arrière pour voir plus tôt les képis du 7e, me crie « Les voilà, les voilà! Vive la ligne! À nous, Pain d'avoine! À nous !» Et en même temps, la lionne, qui entendait le clairon comme nous et qui savait ce que ça voulait dire, pousse un rugissement épouvantable, fait un bond de 3 pieds de haut qui nous jette tous les deux par terre, les 4 fers en l'air, saute à bas du rocher dans le chemin et part au triple galop pour rejoindre son beau-père, ses beaux-frères, sa sœur et toute sa famille qui venaient au-devant d'elle. En 2 secondes, elle avait disparu, en emportant notre épervier dont elle n'avait pas pu se débarrasser. Chapitre 11. Un mouvement tournant. Cette fois, nous étions plus à l'aise. Je dis à Pitou « Mon vieux, prête-moi ton mouchoir pour m'essuyer le front, je suis tout en nage. » Lui, c'était tout le contraire. Il était couvert de poussière, étant tombé tout à plat sur le rocher, qu'on n'avait pas balayé depuis l'an premier de la création du monde. Adam l'avait laissé tel qu'il l'avait trouvé, et ses petits-fils aussi. Pitou me dit à son tour « Eh bien, est-ce que tu regrettes toujours que nous ayons averti le capitaine Chambard? C'est pourtant lui qui vient de nous tirer d'affaire, rien qu'en faisant sonner la charge à Pain d'avoine. » Je répliquais, car je n'aime pas avoir tort. « Es-tu bien sûr que c'est le capitaine Chambard qui vient nous aider si à propos ?» Comme il allait répondre, voilà que le capitaine parut lui-même au détour du chemin, à 30 pas de nous, et qu'il nous dit de son air bon enfant « Ah ah, mes gaillards, vous avez voulu nous jouer un tour, mais qui est-ce qui a manqué de s'y faire prendre et de servir au déjeuner des lions ? C'est bon, ne vous excusez pas, nous nous expliquerons plus tard. Où est le gibier ?» Je lui montrai les lions, qui venaient à nous au grand trot par la route tracée en forme de V le long du précipice. En tête, courait la lionne, toujours, vêtue de l'épervier d'Ibrahim, dont elle n'avait pu se dépêtrer malgré tous ses efforts. Ils étaient encore à 300 pas de nous, mais cette fois, nous étions en nombre pour les recevoir, car le capitaine Chambard avait eu soin d'amener toute la compagnie avec une provision de cartouches. Et voici comment, ainsi que je l'ai appris plus tard. Ibrahim, le traître Arbi qui nous avait amenés là pour rattraper son âne et qui ensuite nous avait si vilainement lâchés quand il se vit hors de danger, était de la tribu des Zouled Ben Ismaïl, qui sont si connus dans tout l'univers que les Parisiens ne le sont pas davantage. Avec ça, mauvais voisin, toujours en querelle avec quiconque, pour des enlèvements de chevaux, de moutons, de bœufs, de filles, de bestiaux de toute espèce, et pas du tout payeur d'impôts, excepté le pistolet sur la gorge ou le sabre levé sur la tête. Justement, une dizaine de jours auparavant, ils avaient préparé un bon coup contre les Beni Okba, leurs voisins et nos amis,
et ils étaient venus camper à 5 lieues de là pour les surprendre. Ibrahim était un de leurs espions, chargé de savoir si nous étions sur nos gardes, et les Beni Okba aussi. C'est en faisant cet honnête métier qu'il était venu sans le savoir, avec sa femme, la pauvre Fatma, dans le campement des lions. La femme y resta et fut dévorée. Ali, le bourricot, eut bien peur, mais enfin nous lui sauvâmes la vie, Pitou et moi, comme on l'a vu. Et le coquin d'Ibrahim se sauva aussi, en emmenant le bourricot et se moquant de nous. Mais voyez comme le bon Dieu arrange toutes les choses. Au moment où les Oulets de Ben Ismaïl se préparaient à faire leur coup sur les Beni Okba, voilà qu'un matin ils s'aperçurent que 6 vaches leur manquaient. Ils crurent tout d'abord que les Beni Okba, avertis, avaient pris l'avance et venaient voler leur troupeau. Mais en suivant la trace des pauvres bêtes et celle du sang versé, ils finirent par reconnaître que les lions n'étaient pas loin et qu'ils étaient au moins 12. Que faire? Se sauver? Pas facile quand on traîne derrière soi des femmes, des enfants, des vieillards et des troupeaux de moutons. C'est pour le coup qu'ils regrettèrent bien d'avoir eu l'idée de faire une razzia chez les Beni Okba. Enfin, l'un d'eux, qui était jeune mais qui n'était pas bête, proposa de s'adresser au Roumi et surtout au capitaine Chambard, homme fameux et bon enfant, celui-là qui ferait une battue avec ses hommes et mettrait tous les lions du pays en chair à pâté. On l'écouta et l'on envoya 2 députés au capitaine Chambard. Lui, voyant leur bonne volonté, les renvoya sur le champ en leur disant que le lieutenant Caron, avec une moitié de la compagnie, allait les suivre par un sentier détourné, celui qu'ils avaient pris pour venir, et que lui, Chambard, avec l'autre moitié, nous rejoindrait, Pitou et moi, en suivant la grande route et en allant au-devant des lions. Nous les prendrions par devant et Caron par derrière. C'est ce qu'on appelle un mouvement tournant. C'est connu des plus fameux guerriers. Chapitre 12. Aux doigts mouillés. Et maintenant, voulez-vous savoir comment finit la bataille entre les lions et la 3e, du 4e, du 7e léger? Comme si le grand Napoléon lui-même avait réglé tous les détails. Nous voyant avancer à rang serré avec le clairon pain d'avoine qui chantait dans son instrument, « As-tu vu la casquette, as-tu vu la casquette au père Bugeaud ?» Les lions s'arrêtèrent pour causer entre eux, et même ils eurent envie de se sauver. Mais comme ils nous tournaient le dos, ils virent de l'autre côté le lieutenant Caron qui s'avançait avec les camarades. À gauche, ils avaient un précipice de 400 pieds de profondeur. À droite, un mur de 100 pieds de haut, taillé à pic dans la montagne. Alors, comme des braves, ne pouvant pas s'échapper, ne voulant pas se rendre, ils se jetèrent sur nous. On les reçut avec des balles d'abord, et ensuite à la pointe des baïonnettes. Ils furent tous tués par l'industrie du capitaine Chambard, qui avait su les envelopper dans son mouvement tournant. Il en devint chef de bataillon et commandant du bureau arabe de B. Ça lui était bien dû, car, outre qu'il avait débarrassé le pays d'un vilain gibier, il avait fait, par la même occasion, amitié avec les Oulets Ben Ismaïl, qui se réconcilièrent avec les Beni Okba et avec nous, aimant mieux, comme il disait, payer l'impôt aux Roumis qu'aux bêtes féroces. Quant à Pitou, qui avait tué le lion, il lui fit donner un bon fusil à 2 coups, que les Oulets Ben Ismaïl payèrent de leur poche, ça va sans dire, et encore trop heureux d'être débarrassés à ce prix de leur ennemi. Pitou ne voulait pas, il disait « C'est Dumanet qui a tiré le premier, c'est lui qui l'a blessé. » Je répondis « Oui, mais c'est toi qui l'as tué. » Le capitaine Chambard cria « Est-ce que ça va durer longtemps, 1000 bombardes? Tirez aux doigts mouillés à qui l'aura. » Le sort tomba sur Pitou. 6 semaines après, nous reçûmes tout notre congé et nous revînmes en France.